Grain de sel, une émission de la rédaction. Grain de sel.
À l'espace Jean-Pierre de Senlis a eu lieu le 25 juin la deuxième édition du Forum Science, initié par le centre pilote La Main à la Pâte de l'Oise et le pôle Ressources Sciences de Senlis. On pouvait y découvrir différents stands tenus par des élèves pour présenter leurs travaux, fruits de démarches expérimentales, à l'appui de modules scientifiques pour développer esprit critique, capacité d'expression et d'engager une réflexion citoyenne sur la compréhension du monde.
Si vous vous connaissez bien en réchauffement climatique.
Oui, allez, on y va.
Alors, donc, vous avez plusieurs questions. Alors, le niveau de l'eau augmente-t-il?
Oui.
Très bien. Selon vous, de combien de degrés les températures ont-elles augmenté depuis 100 ans?
Eh bien, moi, je dirais que c'est la catastrophe. Ça doit être 5 degrés.
Eh ben non. On croirait que ça augmente de 5 degrés, mais ça augmente que de 2 degrés. Mais sachez que c'est vraiment beaucoup. Parce que nous, quand on a de la fièvre, et bah si ça augmente de 2 degrés, on passe à 38. Et quand on passe à 38, on est vraiment malade. Donc, au lieu de monter à 5, on est vraiment malade. La Terre, là, est malade, malheureusement. Est-ce que les couleurs claires et foncées jouent un rôle sur le réchauffement climatique?
Oui, j'ai appris ça avec des jeunes là-bas.
Oui, c'est une bonne réponse. Par exemple, si jamais la banquise elle est blanche, l'eau, la mer, elle est plutôt foncée. Et bah, les rayons du soleil, ça fond en glace.
Qu'est-ce que l'empreinte carbone? C'est un site internet, c'est la quantité de CO2 que nous créons. C'est une empreinte dans la Terre.
Nous deux.
Quelle est la différence entre le climat et la météo? C'est la même chose. La météo, c'est le temps qu'il fait localement et le climat, c'est le temps qu'il fait habituellement sur la Terre. La météo est présentée à la télé, mais pas le climat.
Alors, quelle est la différence entre le climat et la météo? Le deuxième.
Bah, localement, la météo est moins longtemps. C'est sur une journée ou deux jours. Alors que le climat, eh ben, c'est une grande région et en plus ça dure longtemps, ça ne dure pas quelques jours.
Quelles sont les conséquences de la fonte du glacier? Le niveau de l'eau reste le même, il y a des inondations, le niveau de l'eau augmente.
Le niveau de l'eau augmente, je dirais aussi qu'il y a des inondations.
Eh ben, c'est deux bonnes réponses. Il y a des inondations, comme par exemple en Angleterre, ça emporte des maisons. Et c'est vrai que le niveau de l'eau augmente. Par exemple, quand la banquise fond, le niveau de l'eau n'augmente pas, car elle a déjà sa place dans l'eau. Alors que là, ça augmente car ils n'ont pas la place dans l'eau.
D'où vient l'effet de serre? Cela vient des hommes, c'est un phénomène naturel, cela a été fait par les plantes.
Par les hommes?
Bah, l'effet de serre, c'est vrai que c'est un phénomène naturel, ça ne vient pas des hommes. Alors c'est augmenté par les hommes, mais c'est un phénomène naturel.
Quelle eau est préférable de boire? Des rivières, des lacs, du robinet ou de bouteilles?
Du robinet.
C'est bien du robinet, parce que si vous prenez l'eau de bouteille, ça fait déplacer la voiture et vous faites du CO2.
Et en plus, ça fait recycler. Donc, oui. Du coup, bah, c'est moins bien.
À quoi sert l'atmosphère? Elle protège des météorites, elle règle la température à une moyenne de 15 degrés, elle règle la température à une moyenne de 10 degrés.
Les deux dernières, voilà.
C'était faux. Elle protège des météorites et elle règle la température de 15 degrés, pas de 10 degrés. Je te l'ai dit tout le temps, on ne pourra pas forcément vivre sur Terre.
Depuis quand la concentration de CO2, gaz carbonique, dans l'atmosphère a-t-elle augmenté? 1940, 1850, 2013.
1940.
Alors c'est depuis 1850.
Impressionnant.
Bah, c'est à cause de la machine à vapeur. Alors, le premier graphique montre bien les températures qui augmentent. Là, vous voyez, c'était plutôt stable et c'est de moins en moins stable. Et là, ça montre la concentration de CO2 qui augmente depuis 1850.
Ouais, les deux augmentent quoi.
Voilà, les deux augmentent et c'est mal pour la planète. C'est pour ça qu'il faut arrêter la consommation de CO2.
Il faudrait peut-être aussi avoir de moins de monde sur Terre aussi peut-être.
Bah pas forcément, parce que on peut pas choisir d'avoir moins de monde ou pas beaucoup de monde. Mais c'est surtout le CO2, parce que le monde en soi ne va pas nous aider. Mais si déjà on mangeait moins de viande, ça ferait moins de méthane. Donc ça participerait moins à l'effet de serre. Voilà.
Ah bah bravo pour ce que vous faites.
est tout de suite au cœur du forum. Pierre Kimessic, référent du pôle ressources sciences de Senlis.
Le projet sur le changement climatique, ce sont au moins 15 séances de travail par an. Les séances se mènent à l'appui de la démarche d'investigation, c'est-à-dire que les élèves travaillent en groupe sur des manipulations, parfois sur des recherches documentaires. À chaque séance, ils prennent la parole, ils produisent des écrits. Donc c'est des séances riches, donc à peu près d'une durée de 1h30 à minima. À l'issue de ces 15 séances, ça dure quasiment toute l'année scolaire, ils vont réfléchir du côté des actions qu'ils peuvent mettre en œuvre, pour que ça ne soit pas justement trop anxiogène. Donc justement, l'idée au départ, c'est d'avoir suffisamment de connaissances. Après, on réfléchit pour prendre conscience, donc calculer leur empreinte carbone, et après, ils définissent des actions. Beaucoup, là, aujourd'hui, interrogent, parce qu'une des actions que l'on peut mettre en classe, c'est sensibiliser le grand public sur cette question-là.
Pour l'instant, c'était un centre pilote, Senlis et Nogent. C'est quelque chose que vous avez créé il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous allez pouvoir le développer en France ?
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le département de l'Oise, il y a trois pôles ressources. Il y a le pôle ressources de Nogent, de Senlis et de Compiègne. Donc des pôles ressources éducation nationale. Depuis 20 ans, il y avait une collaboration, une convention qui était signée entre l'éducation nationale et la Fondation La Main à la Pâte, sous l'égide de l'Académie des sciences, pour justement favoriser les modules scientifiques La Main à la Pâte qui sont basés sur l'expérimentation. Historiquement, donc depuis 20 ans, sur le centre, il y avait donc un centre pilote qui était à Nogent-sur-Oise. Et depuis 4 et 5 ans, le centre pilote s'est développé sur Compiègne et sur Senlis. Donc les trois pôles ressources éducation nationale appartiennent aujourd'hui au même centre pilote en convention avec la Fondation La Main à la Pâte. Et les modules sur lesquels nous travaillons, ce sont des modules qui sont donc des ressources qui ont été créées par la Fondation La Main à la Pâte, donc à l'appui de ressources scientifiques, et également de l'Office for Climate Education, qui est une entité qui a été créée par la Fondation La Main à la Pâte à l'issue de la COP21 à Paris en 2015. Un des constats qui avait été fait, c'était notamment qu'il n'y avait pas assez de ressources pour les enseignants et le grand public. Donc nous, depuis 3 ans, on s'appuie à la fois sur ces ressources-là, sur les ressources d'un projet qui est existant de La Main à la Pâte, qui existait depuis 10 ans. Et nous avons créé, avec mes collègues de Nogent-sur-Oise et de Compiègne, un module qui permet d'engager les élèves dès le CM1 sur la question du changement climatique, d'une quinzaine de séances par an en CM1, en CM2, et on projette de pouvoir le poursuivre en 6e.
Alors La Main à la Pâte, qu'est-ce que c'est ?
Alors la Fondation La Main à la Pâte, elle a été créée il y a plus de 20 ans par Georges Charpak, prix Nobel de physique. Et en fait, à l'issue de son travail de recherche, il a souhaité rendre à l'école ce qu'elle avait pu lui apporter. Puisqu'il était originaire d'un milieu plutôt défavorisé, immigrant polonais, qui a dû, pendant la Seconde Guerre, migrer en France. Et c'est l'école qui lui a permis d'atteindre le prix Nobel. Et il a voulu donc, à la fin de sa carrière de scientifique, rendre à l'école ce qu'elle peut lui apporter. Il a participé à une expérience aux États-Unis où il a vu que les enfants manipulaient. Il s'est dit, c'est formidable, il faut qu'on puisse manipuler dès le plus jeune âge en France. Dans les années 98, ça a commencé en France et ça se développe depuis.
Ce sont des primaires et je trouve qu'ils ont une maturité incroyable.
Alors, c'est vrai parce qu'on insiste beaucoup dans la... C'est des modules scientifiques, mais c'est aussi, on insiste beaucoup sur le langage.
Oui.
On voit bien que travailler sur la question du changement climatique, c'est pluridisciplinaire. C'est finalement des sciences, c'est beaucoup de langage, parce qu'ils prennent la parole à la fois en groupe, mais ils prennent la parole devant l'ensemble de la classe pour relater leurs découvertes qu'ils ont pu faire en groupe. On travaille beaucoup sur la production d'écrits également, lors de chaque séance. Et puis, comme c'est un projet pluridisciplinaire, on est en sciences, on est aussi en mathématiques, on travaille sur les graphiques, on travaille en histoire, en géographie. Donc c'est un ensemble de compétences qui sont mobilisées parce qu'on travaille sur une thématique, mais aussi à l'appui de la démarche d'investigation. C'est vraiment, ça permet de mobiliser beaucoup de compétences à chaque séance pour les élèves.
Et c'est vous qui allez dans les écoles ?
C'est-à-dire qu'en fait, le module, on l'a expérimenté, on l'a expérimenté dans les classes. Là, on a travaillé, c'est un sujet qui demande des temps de formation pour les enseignants. Parce que c'est un sujet complexe, on ne peut pas s'engager dans ce sujet-là sans être suffisamment à l'aise de son côté. Donc avant de travailler dans les classes, nous avons des temps de formation avec les enseignants pour être plus à l'aise du côté des connaissances, mais aussi du côté de la démarche d'investigation et des séances qu'ils vont mener. Après, le projet se mène en autonomie, c'est l'enseignant qui reste pilote de sa classe, et moi j'interviens en co-intervention sur certaines séances, notamment quand il y a de la manipulation, parce que ce n'est pas toujours évident de faire manipuler les élèves lorsqu'on a des classes de 25, 28, 30 élèves, les mettre en groupe et les faire manipuler. Donc là, j'interviens ponctuellement avec eux pour mener les séances à l'appui de la manipulation. Alors moi, je suis formateur, en fait, donc éducation nationale et référent du pôle ressources sciences. Je suis un formateur maths sciences.
Tout ce que vous faites avec les jeunes, ça va transformer notre avenir, peut-être ?
Alors, c'est effectivement un défi. On le sait, le défi qui nous attend. On pense effectivement que l'école a un rôle extrêmement important à jouer. Parce que c'est finalement peut-être uniquement là qu'on va peut-être apprendre. Et prenant le temps, vraiment, de s'installer du côté des connaissances. Comprendre l'effet de serre, ça demande du temps, ça ne se fait pas en une séance. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce module qui permet de progressivement d'entrer dans les apprentissages. Mais au-delà du changement climatique, on a réfléchi aussi à une progression autour de la biodiversité et du changement climatique, parce que les deux thématiques sont liées. Et dès leur plus jeune âge, ils découvrent aussi, à l'appui de modules scientifiques, on travaille par exemple beaucoup autour des fourmis, dès la maternelle. Et donc c'est une progression qu'on a réfléchi dès la maternelle, cycle 1, donc maternelle, cycle 2, CP, CE1, CE2. On travaille autour de la biodiversité, autour des insectes, autour de la germination, autour des plantes. Et dès le CM1, on va travailler sur le changement climatique.
Qu'est-ce que vous faites avec les jeunes ados au lycée ?
Alors moi, je travaille avec les élèves du premier degré.
D'accord.
Donc je suis sur le côté premier degré, c'est-à-dire jusqu'au CM2. Et dans le cadre de la liaison avec le collège, puisque le cycle 3, il y a donc un cycle qui est à la fois à cheval sur le premier et le second degré. Donc nous travaillons aussi avec le collège pour justement favoriser le lien entre premier et second degré, à la fois du côté de la thématique, changement climatique, pour ce que l'élève ait un parcours cohérent finalement, de la maternelle, mais ça ne s'arrête pas à la fin du CM2, ça continue au collège, ça se poursuivra au lycée. Et puis on travaille également donc sur cette cohérence au niveau de l'entrée thématique, mais aussi avoir une cohérence dans la démarche d'enseignement. Alors on sait que s'il y a une cohérence aussi dans la manière d'aborder les sujets, ça va permettre aussi pour les élèves d'aborder plus facilement des contenus.
Parce que je vois qu'ils sont très motivés, tous ces jeunes. Alors après, est-ce qu'au collège, il va y avoir aussi des cours autour de la science ? Et est-ce que ça va... Oui, c'est ce que vous me dites. Ça va se suivre ?
Ça se suit, effectivement. De toute façon, ça fait partie des programmes. Et l'idée, c'est de travailler aujourd'hui avec les collègues du second degré. Donc on est en train d'y réfléchir pour que ça soit... garder cette cohérence qui nous paraît extrêmement importante sur un sujet complexe. Mais nous souhaitons aussi travailler dans les actions avec les pouvoirs publics à l'appui de partenaires scientifiques. C'est pour ça qu'il y a des partenaires qui sont présents, parce qu'il s'agit aussi d'offrir une lisibilité pour le futur citoyen, pour qu'il puisse définir des actions en cohérence avec son territoire. Il s'agit aussi de, on a des connaissances, on veut agir, il faut agir, sinon ça devient anxiogène, mais agir à bon escient pour effectivement lutter contre le changement climatique.
Ce forum science, il existe depuis 3 ans, il a un grand succès. Oui, ça va être renouvelé.
Alors,
forcément.
Oui, l'idée, parce qu'en fait, ça fait partie intégrante du projet autour du changement climatique, comme autour de la biodiversité, autour du codage et de la programmation. Il est important que les élèves, à un moment, partagent leurs connaissances. Ils ne s'expriment pas de la même manière quand ils sont en classe et ici, en rencontrant des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc ils doivent adapter leur discours et là, c'est aussi très formateur pour eux. C'est pour ça qu'il y a tout un travail qui est mené par les enseignants aussi pour préparer les élèves à ce temps-là.
Très bien. Merci. Alors, c'était Monsieur Pierre...
Pierre Kimessic, c'est un peu difficile. Du pôle ressources sciences de Senlis. Et on est également centre pilote, la main à la patte. Oisnojean, je suis le pôle associé de Senlis au sein du centre pilote, la main à la patte.
Alors, comment tu t'appelles ?
Emma.
Et tu as quel âge ?
10 ans.
On est dans quel stand ici ?
Nous sommes dans le climat entre nos mains. Et c'est une classe de Madame Hervé.
C'est quelle école ?
Anne de Kiev.
À Senlis.
C'est ça.
Comprendre le changement climatique, son origine, ses conséquences. Alors, c'est quoi la solution ?
Il n'y a pas vraiment de grosse solution. Il faut juste faire des efforts. Et si chacun fait un petit effort, nous allons baisser nos taux de CO2 et ça reviendra normalement.
Et qu'est-ce qu'il faut faire comme effort ?
On peut, par exemple, arrêter de couper des arbres, utiliser moins la voiture, prendre de l'eau du robinet et plein d'autres choses. Par exemple, il faut prendre un pull quand il fait froid, ouvrir les fenêtres quand il fait chaud, pas forcément faire tout robotisé.
Tout ce que tu viens de me dire, tu l'as appris comment ?
Dans notre classe science. On a fait un projet et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
C'est le forum science.
C'est ça, c'est la deuxième fois.
Et alors, tu peux décrire ton stand un peu ?
Dans notre stand, nous avons ici des affiches qui peuvent vous permettre à comprendre. Un jeu, et des petits pieds que nous collons pour des engagements que nous faisons dans le quiz, dans les empreintes carbone et dans les jeux.
Ton empreinte carbone, elle est comment ?
Elle était en moyenne, elle était bien. Et depuis, on essaie quand même toujours de la baisser.
Est-ce que tu peux me lire
J'aime ma planète, je la protège, alors je m'engage. C'est un slogan qu'on a fait pour inciter les gens. Là, c'est notre petit pied de classe.
Alors, qu'est-ce qui a marqué dans votre pied de
classe ? Nous, on a écrit, on s'engage à éteindre la lumière quand on sort de la classe, la maîtresse ou même les élèves.
Très bien. Et la personne qui a fait un pied
Je m'engage à
débrancher
mes appareils électroniques.
Très bien.
Il ne faut pas que les mettre en veille parce qu'on croirait que justement ça consomme moins de les mettre en veille. Et ben non, c'est pareil. Il faut débrancher le chargeur ou la télé quand on part en vacances.
Tous tes camarades essaient d'avoir une empreinte carbone moindre alors ?
C'est ça.
Alors qu'est-ce que tu veux donner comme message aux auditeurs de RVM ?
Qu'il faut faire attention et que c'est important parce qu'un jour on n'aura plus la planète ni les ressources qu'on a. Donc du coup, utiliser le moins la voiture.
Merci Emma. Qu'est-ce que vous avez fait à l'atelier Le Climat entre nos mains ?
Bien, j'ai calculé mon empreinte carbone.
Et alors ?
Et alors, je me suis aperçu que c'était pas si bon que ça, quoi.
Vous pouvez nous expliquer à quoi vous avez répondu ?
J'ai répondu à tout un questionnaire autour de ma consommation d'eau, d'électricité, de mes habitudes. Est-ce que, par exemple, je laissais couler l'eau pendant que je me brossais les dents ? Est-ce que je laisse mon ordinateur en veille ou est-ce que je l'éteins ? Combien j'ai d'appareils à la maison ? Est-ce que tout ça, c'est utile ? Et j'ai eu un petit calcul de mes pourcentages sur les infrastructures, les transports, la consommation, le logement et la nourriture, les emballages, etc. Et là où je ne suis pas bon, c'est sur les infrastructures, c'est-à-dire le chauffage, enfin tout ce qui concerne un peu la maison, où je laisse quand même un peu les choses aller. Donc,
Des efforts à ce niveau-là.
Oui, j'ai pris une petite claque et il faut que je fasse des efforts.
D'accord, merci.
Je suis Monsieur Legrand, l'inspecteur éducation nationale de Senlis, et je suis en charge du groupe départemental sciences pour le département de l'Oise. Et donc cette action s'inscrit dans ce programme de sciences qui vise à valoriser en fait les travaux des classes en fait, et donc à vulgariser un petit peu l'enseignement scientifique, culturel scientifique, à le présenter au plus large public possible pour les sensibiliser aux problématiques actuelles de l'environnement et du réchauffement climatique. L'idée, c'est donc de présenter, de comprendre, de mieux connaître aussi ces mécanismes et aussi pour mieux agir, bien sûr, pour agir sur le climat, pour agir sur ce surréchauffement qui est, à mon avis, est déjà bien parti. Voilà.
Quelle est la genèse de ce projet ?
Alors, la genèse de ce projet, eh bien, il y a déjà 4 ans, parce qu'en fait, c'est suite à une convention en fait, qui s'est mise en place entre l'Éducation nationale, l'Académie des sciences, et puis la mairie c'est la mairie de Senlis, donc on s'associe. C'est un partenariat, en fait, qui amène à ce que chacun fédère un petit peu ses moyens, ses efforts, si vous voulez. Donc l'Éducation nationale a mis un poste en place, spécifique, sur la ville de Senlis et les alentours, pour justement, comme je disais tout à l'heure, dynamiser l'enseignement des sciences dans les classes, en particulier les thématiques environnementales et climatiques, oui. Et alors moi j'essaie de le développer à l'échelle du département de l'Oise, donc on va essayer de démultiplier, on va dire, cette action dans d'autres villes. On essaie, alors il y a dans la ville de Compiègne, il y a aussi un pôle ressources sciences qui va aussi aller vers cette dynamique là, et puis il y a le pôle historique, si vous voulez, scientifique, qui est basé à Nogent, en fait. Enfin, la première ville qui a signé une convention avec la Malapat et l'Académie des sciences, c'est la ville de Nogent, qui est donc là, alors lui historiquement est présent depuis plus de 20 ans. Et on essaie de se fédérer autour de ce pôle ressources de nos gens, et notamment donc en ouvrant un à Senlis il y a déjà 4 ans, et puis à Compiègne aussi, il y a 5 ans Compiègne, voilà. Et dans les autres départements, ce sont des prémices, hein. Je ne suis pas sûr que dans l'Aisne et dans la Somme, parce qu'on raisonne en académie, l'académie est... comprend le département de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise. Alors pour l'instant, cette dynamique-là n'est installée que dans l'Oise, en fait.
Voilà. Et donc j'ai appris avec les jeunes qu'on avait tous une empreinte carbone.
Oui.
Alors, et la vôtre, c'est laquelle ?
la moins grande possible. Il va falloir qu'on essaie de se tester de soi-même. Il y a des tests, hein,
oui,
si vous voulez.
Oui, je sais,
si
j'en ai fait. Hein.
C'est prévu.
Ce qui est extrêmement intéressant sur l'empreinte carbone, c'est quand on fait le test, nous sommes tous, sauf alors quelqu'un d'assez exceptionnel dans son comportement, on est tous au-dessus.
Oui.
Moi aussi, je le suis. Ouais. Parce que finalement, on s'aperçoit que il y a, parce qu'on est en France, il y a une empreinte qui... structurelle en fait.
Oui. Qui est incontournable.
Et là, voilà, c'est pour ça que dans les actions qui sont proposées, il y a inévitablement des gestes individuels qui sont importants, mais inévitablement, il va falloir aussi passer sur des gestes collectifs. C'est pour ça que nous travaillons, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à la fois pour qu'il y ait une cohésion sur un territoire avec les pouvoirs publics, avec les partenaires, pour qu'ensemble, on arrive à définir des actions qui sont réellement efficaces pour lutter contre le changement climatique. Savoir dans quelle direction on va, on regarde la problématique du territoire. Et voilà, c'est un travail que nous commençons à mener. Et les futurs citoyens qui sont formés aussi, qui ont déjà des connaissances certaines, vont aussi vouloir agir, et c'est bien normal. Maintenant, il s'agit de leur proposer action pour qu'on puisse effectivement réduire cette empreinte carbone. Alors, il y a des directives au niveau de l'État, mais il y a aussi des choix qui sont faits au niveau local.
Local, oui, c'est ça.
Alors, votre empreinte carbone, qu'est-ce que vous faites pour la planète ?
J'essaie de réduire au maximum l'usage de véhicules motorisés.
Ça, c'est dur, hein.
Mais comme disait Pierre, effectivement, on n'a pas toujours le choix, en fait. Hein. C'est ça. La vie fait qu'effectivement, il faut le vouloir, quoi. C'est vraiment une volonté. Une volonté individuelle, déjà, pour commencer. Et puis après, partager, effectivement. Effectivement, c'est un choix de vie, en fait.
Mais il y a aussi, je crois qu'on est mal informé, en fait, sur dans quelle direction on doit aller. Et souvent, on est un petit peu perdu. Alors, mais moi, je sais, par exemple, ce qui me rassure aussi, c'est que l'alimentation, c'est un des axes sur lesquels il faut aller, du côté individuel. Parce qu'effectivement, on sait que voilà, manger un steak de bœuf, ça émet autant de gaz à effet de serre, par exemple, que faire un déplacement en véhicule, tout seul dans sa voiture, sur 200 km.
Ça, on ne le sait pas.
Donc, c'est-à-dire que l'alimentation, c'est un des premiers leviers sur lesquels il faut aller individuellement. Collectivement aussi. Je pense qu'on peut aussi réfléchir au niveau local. Après, il y a la mobilité. Alors effectivement, on n'a pas toujours le choix, c'est difficile si on habite en dehors de la ville pour se déplacer. Et puis le troisième axe, c'est l'habitat. Et là, il faut qu'il y ait aussi une politique d'investissement pour isoler son logement, changer sa chaudière. Voilà, ça ne dépend pas que du choix individuel. Voilà, donc il faut déjà être au clair, en fait, finalement, je crois, ces trois axes, ils sont importants. Et comment on peut, finalement, du point de vue individuel, faire des efforts, mais aussi réfléchir collectivement.
Très bien. Donc l'avenir, il est comment ?
Il est optimiste. Il est optimiste l'avenir. Et je pense qu'au travers de toutes ces actions, on essaie de documenter au maximum les jeunesses là, qui nous arrivent et de leur faire prendre conscience. Quoique, ils ont déjà on le voit hein, dans les classes, plus on place dans les classes, plus on s'aperçoit que les enfants sont sensibles. Et donc l'avenir, je pense qu'il repose sur eux essentiellement. Et je pense qu'on va rester très optimiste. Parce qu'il le faut. Je pense
très
qu'il
bien.
Le faut.
Vous appelez comment ?
Léa.
Fauve. Michel.
Vous êtes dans quelle classe ?
Nous, on est dans la classe de Madame Hans et dans la classe de Madame Massin et on est dans l'école Séraphine Louis.
Vous êtes en train de faire un jeu ?
C'est un projet sur l'effet de serre. On essaye d'expliquer comment cela marche et comment on pourrait arranger les choses.
Et comment on peut arranger les choses ?
Il faudrait diminuer notre empreinte carbonique.
Oui, voilà.
Et comment faut faire ?
On pourrait essayer de réduire notre trajet en voiture. Et plein d'autres choses. Il faudrait arrêter de trop consommer.
Est-ce que tu crois que c'est facile ?
En vrai, c'est pas si facile que ça, vu qu'on s'y habitue. Donc, s'y détacher, c'est plus dur. Mais on peut tous faire un effort. Les parents, ouais, c'est à eux de nous montrer les exemples. Et on va tout essayer pour protéger notre planète. Et voilà.
Pourquoi la Terre se réchauffe-t-elle ?
À cause du changement climatique, car nous polluons trop, le COD est retenu dans l'atmosphère et réchauffe la planète. Et les glaciers et la banquise fondent, et comme il y a moins de blanc, la Terre est plus foncée.
Les couleurs foncées attirent la chaleur.
et l'absorbe et la garde. Et donc cela va réchauffer la terre. Et donc voilà, donc faut tout éviter pour que les glaciers et tout ça aient fini.
Alors donc c'est les humains qui mettent la terre en péril.
Oui, exactement.
Après, on ne sait pas, peut-être que ça se réchauffe au fur et à mesure et qu'on accélère juste le tout. Mais
ça va, vous êtes optimiste pour l'avenir ou pas?
Ouais, on reste optimiste.
Ouais,
d'accord, très bien.
Bon, bah, passez une bonne journée.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Bonjour les jeunes, vous êtes dans quelle classe?
C'est moi, Madame Louvineau, l'argilière.
Et c'est quoi ici comme atelier?
L'atelier sur le climat.
Qu'est-ce qu'on y apprend?
On doit faire une chaîne alimentaire.
Alors c'est quoi une chaîne alimentaire?
C'est par exemple, l'herbe elle est mangée par la tortue. La tortue elle est mangée par quelqu'un d'autre et qui est mangée par encore quelqu'un d'autre. Là on explique aux gens qui arrivent comment faire. Ils placent les animaux et puis après il faut faire des flèches pour savoir qui est mangé par qui.
Ah, et nous on est mangé par quelqu'un?
Non, on est au sommet de la chaîne alimentaire.
D'accord. Et à quoi sert, à ton avis, la science pour l'avenir?
Bah, pour comprendre un peu plus des choses sur le monde.
Bonjour, bonjour. Alors, c'est la classe de qui et dans quelle école?
C'est la classe de Rully.
C'est quel atelier, là?
Alors, là, on est sur le climat. Ici, c'est plutôt sur l'acidité des liquides.
Alors, explique-nous, c'est quoi comme expérience?
Ici, on a voulu montrer le rôle de l'acidification sur le vivant de l'océan. On a vu que le vinaigre, il était très acide. Du coup, on a fait une expérience avec des coquilles Saint-Jacques et du vinaigre. Et on a regardé ce que le vinaigre faisait sur les coquillages. On n'a pas pris d'eau salée parce que sinon ça aurait pris beaucoup trop longtemps. Du coup, on a pris du vinaigre pour aller plus vite. Quelles sont les conséquences sur le vivant de l'acidification des mers et des océans? Notre expérience, nous avons mis les coquilles dans du vinaigre pur pour connaître les conséquences de l'acidité sur les êtres vivants. Nos observations, coquilles partiellement cassées, brisées, des bouts de coquilles remontent à la surface, aspect granuleux comme du sable. Dans notre expérience, la réalité est exagérée. Le vinaigre est bien plus acide, pH 4, que de l'eau de mer, pH 8. Les activités humaines émettent du CO2, responsable du réchauffement planétaire et de l'acidification des océans. L'eau devient plus acide et va contribuer à la destruction de la biodiversité sous-marine. De nombreuses espèces vivantes sont donc menacées.
Depuis quand on a découvert ça?
Je pense qu'en fait, il y a des espèces qui commencent à disparaître. Je pense que c'est parti de là, en fait. On s'intéresse à pourquoi il y a une telle disparition de certaines espèces. Et je pense qu'en étudiant l'acidité de l'eau, on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait un impact. Et d'où vient cette acidification des océans? Ça part des activités humaines, du CO2, de la pollution, du réchauffement planétaire.
Et donc vous êtes l'institutrice?
Oui, Madame Ducrot, de Rully, CM1, CM2.
Comment l'être humain peut émettre moins de CO2?
Bah, il faut arrêter de rouler trop en voiture et essayer de moins gaspiller.
Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, comme expérience?
On a essayé de limiter notre émission de CO2 en venant 2 jours sans voiture. Donc on a lancé un défi à tout l'ensemble de l'école, oui, pour venir à vélo, à pied, en trottinette, mais ne pas utiliser la voiture.
Et ça a marché?
Y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus en voiture.
Bah après, la maîtresse, elle a pensé à choisir un jour dans la semaine où à chaque fois on devrait venir en vélo, mais vu qu'il y en a qui habitent plus loin de l'école, c'est plus compliqué.
Ouais.
Donc il faudrait que ceux qui sont plus près viennent plutôt presque tous les jours à pied ou à vélo.
Qu'est-ce que c'est que cet atelier? Qui veut m'expliquer? Tu veux m'expliquer?
On a essayé de comprendre pourquoi le niveau des océans il a augmenté. Du coup, la fiole qui est ici avec l'eau rouge représente l'eau des océans. Et autour, on a mis de l'eau chaude qui représentait la chaleur.
À cause de la chaleur, enfin grâce à la chaleur, le niveau des océans va se dilater, va augmenter
il va prendre plus de place, plus de volume.
Donc ça va déborder, ça fait des catastrophes.
En fait, là, sur notre expérience, quand le niveau augmente, ça va pas déborder, mais ça va former une espèce de petite bulle.
Et elle fait quoi, cette bulle ?
Ben, elle reste en place, elle ne déborde pas, mais juste ça va fermer un petit volume.
Et donc tout ça, c'est dû au réchauffement de la planète, c'est ça ? Donc les glaciers fondent. C'est quoi la solution pour que ça ne fonde pas ?
Bah, ce serait de diminuer les
déplacements en voiture.
Tout le CO2, d'utiliser moins de CO2 tous les jours. Dans la vie de tous les jours.
Bravo les jeunes, hein. Je suis avec Madame Loiseleur, maire de Senlis. Ce forum de science, il existe depuis combien de temps ?
Et alors, il a démarré avant la période Covid et il reprend cette année de plus belle parce qu'on a la chance non seulement d'avoir la quasi-totalité des classes maternelles et élémentaires surtout de la ville, mais aussi cette année des collèges et lycées qui se sont joints à ce forum, ainsi que de nombreux partenaires. Alors je vais en citer quelques-uns, je suis sûre que je vais en oublier, mais il y a le Parc naturel régional, il y a le CPIE, qui est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Je crois qu'il y a aussi le SAGE de la Nonette, le syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette. Voilà, de nombreux partenaires qui sont venus aussi pour apporter de l'information, partager de l'information, parce que ce forum, c'est du partage entre les générations, puisque les élèves se sont suffisamment appropriés les démarches scientifiques et aussi les connaissances pour pouvoir les transmettre aux adultes. Les enseignants sont là pour encadrer les ateliers tout au long de l'année, avec ce pôle science, ce référent en science qui est M. Kmiesik, qu'on a la chance d'avoir à Senlis, parce que ce pôle science, en fait, il permet à toutes les classes d'avoir accès à un certain nombre d'ateliers, à toute une pédagogie qui est une pédagogie de l'observation, de la manipulation autour des sciences. Pas seulement le développement durable, hein, mais vraiment il y a du codage aussi. Enfin, il y a vraiment une approche scientifique. Tous les élèves peuvent avoir accès à ces ateliers, à ce savoir. Et je pense que c'est très important. Ça peut aussi susciter des vocations dans le domaine scientifique, chez les garçons et chez les filles, parce qu'il y a aussi cette égalité filles-garçons qu'il faut susciter, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plus de garçons que de filles encore qui s'orientent vers des professions scientifiques. Je voudrais ajouter que cette année, il y a aussi des enseignants de communes voisines qui sont venus avec les élèves pour présenter des ateliers. Ça ne concerne donc pas seulement Senlis, mais vraiment le territoire de Senlis.
Ben merci pour toutes ces explications. Est-ce que vous pensez que la science va servir pour sauver l'avenir ?
Mais j'y crois beaucoup. Il faut qu'elle soit partagée. On en parlait là avec l'organisateur de ce forum, enfin en tout cas l'organisateur principal qui est le référent Pôle Science. Il faut, pour pouvoir agir sur la planète, il faut déjà partager, enfin avoir un socle de connaissances suffisant. Parce que si on n'a pas ce socle de connaissances, il est difficile d'agir efficacement. Et puis après, il faut qu'on arrive à se coordonner entre les acteurs locaux pour agir efficacement sur notre territoire. Parce que nous croyons beaucoup à l'action locale, et parce qu'il ne faut pas attendre que le changement vienne d'en haut, si j'ose dire. Il faut vraiment qu'au niveau local, nous puissions nous coordonner sur des actions efficaces pour réduire l'empreinte carbone de notre territoire. Alors ça peut être des actions sur les mobilités, des actions sur aussi l'alimentation, par exemple, développer les circuits courts, réfléchir à la restauration scolaire, etc. etc. Il y a des actions concrètes à mener en utilisant les compétences de tous les partenaires que nous avons la chance d'avoir ici localement.
Quels sont les efforts que fait la ville de Senlis ?
Alors, il y a déjà beaucoup d'efforts d'actions dans différents domaines. Par exemple, je vais citer l'écoquartier de la gare, qui est dans une voie de labellisation par le ministère du Logement. Donc un écoquartier, ça répond à des engagements forts en matière d'isolation thermique, en matière de récupération des eaux pluviales, de liens sociaux aussi, ou encore d'espace vert. C'est très généreux en espace vert, en jardin partagé. Ça fait partie, je dirais, de nos réussites, l'écoquartier. Et puis, il y a également, à travers les conseils de quartier que nous avons créés depuis 2020, beaucoup d'actions dans le domaine environnemental qui sont des actions citoyennes, en lien ou pas avec la mairie. Nous réfléchissons beaucoup actuellement aussi à créer des îlots de fraîcheur en ville. Alors nous avons déjà la chance d'avoir quand même pas mal d'espaces verts, mais à chaque fois que nous faisons un nouvel aménagement, à chaque fois que nous sommes dans un nouvel aménagement urbain, nous réfléchissons aussi, pas seulement aux bâtis, mais aussi aux espaces verts, bien sûr. Et puis, dans le domaine de l'aménagement, aux aménagements de cours d'école, parce que nous avons certaines cours d'école qui sont encore trop minérales et que nous devons les désimperméabiliser, les végétaliser pour le bien-être des enfants, bien sûr. Et parce qu'on voit que quand il y a des pics de température, c'est quand même dans les espaces verts, végétalisés, qu'on est le mieux et qu'on peut trouver plus de fraîcheur. Ça, ce sont quelques exemples. Et puis, une réflexion aussi autour de la restauration scolaire. Peut-être une mutualisation avec d'autres établissements pour pouvoir avoir des repas qui soient davantage centrés, enfin, en tout cas, dans lesquels il y ait davantage de circuits courts, de produits en circuit court, moins de viande, enfin, toute cette réflexion.
Très bien. Ben, je vous remercie, Madame
Je vous en prie.
Nous sommes le stand de Madame Lescure de l'école de Brigebaix. Nous avons fait une maquette sur la ville du futur.
Explique-nous.
Nous l'avons appelée Smart Cities. C'est une ville numérique. C'est une ville qui utilise des outils numériques et informatiques pour le confort des habitants. Par exemple, les habitants ont besoin, dans une ville, d'électricité, d'eau et de nourriture. C'est pour ça qu'on a créé Solar Space. Solar Space, c'est une boule qu'on va envoyer dans l'espace pour capter les rayons du soleil et la chaleur, qui va directement être transformée en énergie. Cette énergie, on va l'envoyer à la centrale, qui va la disperser un petit peu partout. Et ici, on a une citerne, où avec ce tuyau, on va récolter l'eau de mer, on va enlever le sel qui est dans l'eau de mer, pour la transformer en eau potable, et cette eau potable va servir aux habitants du village. Ils vont pour prendre sa douche, par exemple, pour tout ce qu'ils ont besoin. Voilà.
Donc, vous avez inventé cette ville.
Oui.
Est-ce que vous l'avez inventé par rapport à ce que vous avez appris dans votre cours de sciences?
Oui, tout ce qu'on a appris dans nos cours de sciences, oui. On a mis les idées dans nos cahiers de sciences, par exemple. Par exemple, pour les éoliennes, on sait que grâce à l'énergie éolienne, on peut faire de l'électricité, par exemple. Il y a certaines choses qu'on a inventées, comme le Solar Space, qu'on a inventé, et d'autres choses.
Et c'est quoi les autres choses? Qu'est-ce que vous avez
Alors,
inventé?
Alors, par exemple, on a inventé... En fait, l'école, ce n'est pas une école. C'est un bâtiment d'habitation implémenté à l'école, qui permet de directement ne pas sortir et prendre sa voiture pour aller à des kilomètres.
Très bien.
Aussi, on a créé Space Visit. Space Visit, c'est pour l'école, mais en fait pour tout le monde, mais surtout l'école. Et ça aide aux élèves pour réviser leurs leçons de sciences. Ils peuvent directement visiter le système solaire.
Ça, c'est ingénieux.
Oui. Ensuite, pour vous en dire plus, je vous laisse avec sa créatrice.
Ah, bonjour. Alors, raconte-nous ta création.
Moi, j'ai créé la Space Visit.
Ouais.
Les enfants à l'école... Souvent, ils n'aiment pas rester à apprendre sur des chaises. Des fois, ça ne les intéresse pas. Et là, j'ai pris l'exemple du système solaire. Donc, au lieu de rester assis sur une chaise à écouter la maîtresse, ils pourraient aller dans cette boule qui les envoie dans l'espace. Et comme ça, ils peuvent visiter réellement le système solaire. Et ça les intéresse plus.
Et tu crois que ça va exister dans le futur?
Je ne sais pas, mais je l'espère.
D'accord. Est-ce que tu as inventé d'autres choses?
Dans l'autre maquette, j'ai fait une serre géante. Donc, les habitants peuvent venir se servir et on plante les légumes en fonction des saisons. Donc, par exemple, si on est en hiver, on ne va pas planter des fraises ou parce qu'on sait que ça va mal pousser. Donc là, par exemple, on a mis plutôt des potirons, des navets, des salades, donc plus des légumes. Alors, après, on a fait...
Ça existe, on peut dire que ça...
Oui, ça existe, ça existe. C'est un peu.
Ouais.
Alors, après, j'ai fait la Parade Île. Donc, c'est une île où les habitants peuvent vivre dessus. Comme ça, ils sont éloignés de la ville, ils n'ont pas de bruit et ils sont au calme. Et j'ai fait un bouton qu'on active avec la montée des eaux, parce que si l'eau monte, l'île va être engloutie. J'ai fait ce bouton parce qu'en dessous de l'île, on a mis un ressort. Donc comme ça, quand le niveau de l'eau monte, l'île monte aussi, et elle n'est pas engloutie dans l'eau. Et on a fait pareil pour la maison troglodyte, donc c'est une maison sous terre. Parce que plus tard, si l'eau continue de monter, on sera à l'abri et on pourra toujours continuer à vivre sous l'eau.
Bah, dis donc, tu es très ingénieuse. Hein ? Est-ce que c'est le cours de sciences qui t'a donné toutes ces idées ou tu as un monde imaginaire important ?
J'aime bien inventer des choses.
Bah, en tout cas, c'est un monde qui me plairait. Hein. Et toi, tu vivrais où dans votre maquette?
Donc en fait, on a fait deux parties. Donc il y a une partie avec les bâtiments, les magasins. Et l'autre partie, c'est plus pour se reposer. C'est là où on cultive. Par exemple, on a mis des moutons à la place des tondeuses. Et moi, j'aimerais bien habiter dans cette ville.
Oui.
J'aime beaucoup aussi l'école qu'on a créée avec les personnes âgées. Donc le contact qu'on aurait avec elles, parce que d'après une étude scientifique, les personnes âgées vivraient plus longtemps si elles ont du contact avec des enfants.
Tu tiens ça d'où, cette information ?
De la maîtresse. Parce qu'avant de créer notre ville, on a regardé des documentaires et des images pour s'inspirer un petit peu. Par exemple, on a imaginé... Donc, la ville s'appelle Smart City, donc c'est une ville intelligente qui utilise les outils numériques pour le confort des habitants. Donc en 2050, plus de 65% de la population mondiale vivrait en ville. Nos défis, c'était de réduire la consommation d'énergie en ville, de réduire la consommation d'eau et de produire la nourriture autrement.
Et pourquoi vous l'avez appelée Smart City ?
Alors, parce que Smart City, ça veut dire ville connectée. Et dans notre ville, on utilise beaucoup de choses électriques et connectées. Donc, on a fait une usine électrique. Pour les drones qui livrent, ils sont totalement autonomes parce qu'on a mis des capteurs solaires sur la route. Et ils sont aussi sur le drone, comme ça, quand ils livrent, ils ont juste à suivre les capteurs solaires et ils arrivent au bâtiment où ils devaient livrer.
Tu es très intéressante.
Merci.
Bravo. Tu t'appelles comment ?
Ise.
Tu continues ?
Au revoir.
Au revoir. Alors, je suis avec Marie-Claude Thiolec, qui est la principale du collège Fontaine des Prêtres de Senlis. Qu'est-ce que vous présentez à ce forum science ?
Bonjour Frédéric. Alors, on présente les actions qu'on mène avec les éco-délégués, les élèves qui font partie du club potager pédagogique et les élèves du club développement durable. Alors, il faut savoir qu'à la Fontaine des Prés, c'est un établissement labellisé développement durable niveau expert, qui est le plus haut niveau de ce label. Le potager pédagogique, on l'a en liaison avec le CPE de Senlis et le WWF France, puisqu'on est pilote dans la mise en place de potagers pédagogiques en France. On est 8 établissements pilotes. Alors, on a également des actions autour des collectes de piles, de stylos qui servent pour les associations. On travaille avec Précédis, on travaille avec Batterybox et pour les cartouches d'encre avec l'entreprise LVL, Enfance et Partage.
Toutes ces actions avec les jeunes, qu'est-ce qu'ils apprennent ?
Beaucoup de choses. On a énormément d'élèves qui participent. Déjà, les élèves qui participent en tant qu'éco-délégués, club potager et club développement durable, c'est déjà plus d'une soixantaine. Mais également participent les enseignants, les agents, puisque nos cuisiniers travaillent également sur le gaspillage alimentaire. la direction, les élèves, les parents d'élèves. C'est vraiment une dynamique de l'ensemble des membres de la communauté éducative. L'objectif, c'est bien évidemment la préservation de l'environnement. C'est une vie plus saine, plus proche de la nature et aussi autour des belles valeurs de solidarité et de respect des uns et des autres et de la nature.
Dans ce forum, on parle d'empreinte carbone. Est-ce que vous pouvez me dire quel effort vous faites ?
Alors, l'effort qu'on fait au niveau de l'empreinte carbone, c'est surtout au niveau de l'alimentation. Il y a une vraie éducation à l'alimentation. Déjà au collège, la cuisine est faite sur place. On travaille beaucoup avec des produits bio, les produits locaux, même si d'un point de vue budgétaire, on ne peut pas le faire souvent. Mais en tout cas, il y a une vraie sensibilisation. Et là, ce qu'on présente aussi, on a travaillé sur le gaspillage alimentaire. Donc, on fait aussi des assiettes en fonction des appétits de chacun. On est les premiers, au niveau du collège de La Fontaine des Prés, c'est le premier collège de l'Oise dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'était reconnu puisque là, dernièrement, on a fait des statistiques et il n'y a que 20% de gâchis alimentaires, alors qu'en général, c'est autour de 100 grammes. Donc, on n'a que 20 grammes de gâchis. Donc, c'est une sensibilisation qui se fait. Les élèves à la restauration scolaire prennent le mégaphone, expliquent aux élèves leur démarche, pèsent le retour des assiettes. Donc, l'empreinte carbone, c'est à ce niveau-là. Et puis, une réflexion aussi, une sensibilisation à, la viande, ça représente tant, par exemple, les légumes, c'est tant au niveau de l'empreinte carbone. Voilà, les élèves connaissent de plus en plus de choses à ce niveau-là.
À quoi doit servir la science demain ?
Vaste programme. Ce qui est important, je pense que c'est à plusieurs niveaux. La science est comme la démarche d'investigation, c'est de pouvoir se poser des questions, d'émettre des hypothèses, de réfléchir. Le collège, nous, on a rejoint le réseau national des collèges labellisés La Main à la Pâte. Donc, on travaille avec la classe science de Senlis, mais également avec les autres centres La Main à la Pâte de l'Oise, mais également maintenant au niveau national. Ce qui va nous permettre de mutualiser les ressources pédagogiques entre enseignants, mais également nous en tant que chefs d'établissement, et de pouvoir rencontrer des scientifiques également. Mais je trouve que la science n'est pas réservée qu'aux scientifiques, parce que la science, ça peut faire aussi intervenir d'autres disciplines, des disciplines littéraires, des disciplines artistiques. Voilà, ce n'est pas réservé à une élite.
Ben merci Marie-Claude.
Merci Frédéric.
Qu'est-ce que tu as pensé de ce forum science ?
Il est important et qu'il était très bien parce qu'il y a eu beaucoup de monde et on voit que les gens ils s'intéressent.
C'est le mot de la fin ? On dit comme ça ?
C'est ça.
Ok, merci Emma.
C'était Frédéric. J'étais le 28 juin 2022 à l'église de Saint-Pierre de Senlis où était installé le forum science organisé par la fondation LAMP, La Main à la Pâte de l'Oise et du pôle ressources sciences de Senlis. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site www.radio-valois-mulcien.fr. Bonne journée sur RVM.